Bonjour et bienvenue à ce numéro d'À propos. Permettez-moi de commencer par une communication. La semaine dernière, le Conseil ministériel d'administration a tenu une téléconférence avec notre administration pour discuter de la construction éventuelle d'un centre d'éducation à côté de notre siège social. Nous envisageons ce projet depuis plus de 2 ans. Notre administration a fait plus que sa diligence raisonnable et avec nos rapports financiers de l'année dernière en main, le Conseil a approuvé à l'unanimité la construction. Monsieur Franks nous a écrit plus tôt cette semaine, « Il y a plus de 2 ans, en août 2022, j'ai proposé au Conseil ministériel d'administration que nos finances issues de la pandémie de COVID nous permettraient de construire un auditorium avec centre éducatif sur l'hectare restant de notre propriété. Cela faisait partie de notre plan initial lorsque nous avons fait construire le bâtiment du bureau en 2018. Dans le cas de cet immeuble, l'Église a payé comptant pour la propriété et a ensuite contracté une hypothèque pour le bâtiment. C'était en effet un acte de foi pour nous en tant que petite organisation commençant tout juste à prendre pied sur terre. Mais Dieu nous a abondamment bénis pendant les 2 années de planification et de construction et nous avons remboursé l'hypothèque en juin 2021, environ 2 ans après avoir terminé la construction du bureau en 2019. L'Église alors était sans dette et nous le sommes restés depuis. Aujourd'hui, avec 4 des 5 dernières années affichant une augmentation des revenus, notre montant de trésorerie disponible a également augmenté. Sans dette et avec une réserve de trésorerie très saine, nous sommes maintenant en mesure d'ajouter le 2e bâtiment à notre terrain. Son apparence extérieure sera très similaire à celle de notre immeuble de bureau actuel. La capacité de l'auditorium, telle que prévue, sera de 466 places assises. Mais il y aura également 3 salles supplémentaires qui pourront être utilisées en cas d'affluence, ce qui portera la capacité totale à plus de 600 places. Il y aura une section séparée pour l'Institut du Fondement qui pourra accueillir 48 étudiants à leur table de travail. Cette section pourra être fermée afin que les cours puissent se dérouler pendant que d'autres événements auraient lieu dans l'auditorium. Et en déplaçant l'Institut du Fondement dans le nouveau bâtiment, nous libérerons plus de 90 mètres carrés supplémentaires dans le bâtiment de bureau qui seront convertis pour répondre aux besoins croissants de notre département des médias. Nous envisageons ce nouvel espace sera utilisé pour le stockage du matériel, un 2e studio, des bureaux et des postes de travail pour les employés. Le CMA pense que ce sera un outil très utile pour l'Église dans l'accomplissement de sa mission. Nous sommes reconnaissants que Dieu nous ait guidés et donné les moyens de mener à bien ce projet. Maintenant, la semaine dernière, je suis revenu d'un long voyage pastoral à travers l'Afrique francophone, avec une escale à Londres pour y passer un sabbat et prononcer le sermon. Après Londres, ma femme et moi avons pris l'avion vers le nord de la Zambie, via Addis Abeba en Éthiopie. Nous avons raté notre correspondance à Addis et avons dû y passer la nuit en attendant le prochain vol le lendemain matin. Ce n'était pas la seule correspondance ratée lors de ce voyage. Nous nous rendions en Zambie pour pouvoir rendre visite à certains membres nouveaux à notre association qui vivent à la frontière dans le sud de la République démocratique du Congo. La région de la Zambie où nous avons atterri est appelée la ceinture de cuivre en raison des importants gisements de cuivre qui sont exploités depuis des décennies. Nous avons passé par la Zambie parce qu'il est beaucoup plus facile d'y entrer qu'au Congo. Obtenir un visa pour entrer au Congo est coûteux et prend du temps. Et ce pays a l'un des pires bilans en matière de sécurité aérienne au monde. En fait, 13 compagnies aériennes congolaises sont interdites de voler en dehors du pays en raison de leur piètre bilan en matière de sécurité. Environ 50 personnes sont mortes dans 20 accidents aériens au cours des 25 dernières années. La Zambie, en revanche, n'exige pas de visa pour entrer sur leur territoire avec un passeport américain ou européen. Il suffit de présenter son passeport et de se le faire tamponner pour entrer au pays. le service aérien international est sûr et rapide. Nous avons donc atterri à la ville de Ndola, où nous avons passé deux nuits. Les personnes qui vivent à la zone frontalière du côté du Congo, comme celui de la Zambie, sont autorisées à traverser la frontière avec une carte d'identité, à condition de rester dans une bande étroite longeant cette frontière. Il était donc possible de rencontrer ces membres congolais du côté zambien de la frontière. Nous avons loué une voiture avec chauffeur pour faire le trajet de 3 heures jusque dans le nord, au nord de Ndola plutôt, jusqu'à la frontière. Après une crevaison en cours de route dans la ville de Kitwe, nous avons découvert que la route de secours de notre chauffeur était également à plat. Nous avons donc dû attendre 1 heure pendant laquelle il est parti acheter un nouveau pneu. Nous avons finalement rencontré le petit groupe dans un restaurant local, près de chez eux, où ils habitent dans la ville de Kasumbalesa. Nous nous sommes présentés et nous sommes assis tous ensemble pour qu'ils puissent nous raconter leur histoire. Ils étaient venus à l'Église de Dieu par le biais d'une autre association, mais ils ont découvert que l'ancien, je vais le mettre entre guillemets, de l'Église qui leur avait été assignée était vraiment malhonnête. Il essayait de les obliger de mentir sur les dépenses de cette Église en les exagérant afin qu'ils puissent tous empocher de l'argent. Lorsqu'ils ont refusé de mentir, ils ont été expulsés par cet homme malhonnête. Et ils ont commencé à chercher une autre association de l'Église de Dieu et ont finalement contacté notre pasteur à Lusaka, en Zambie, M. Kambani Banda. Comme ce petit groupe parle le français plutôt que l'anglais, M. Banda les a mis en contact avec nous. Nous avons discuté de notre travail, le travail de notre association, et de ce que nous pourrions faire pour les servir. Ils étaient très heureux de contacter des personnes qui feraient de leur mieux pour les servir honorablement et honnêtement. Nous les avons mis sur notre liste de diffusion et les ajouterons à notre liste de visite pastorale. De Zambie, ma femme m'a pris l'avion pour rentrer chez nous via Johannesburg. J'ai préféré qu'elle ne m'accompagne pas au Burundi, ma prochaine étape, en raison de l'insécurité au pays. Le département d'État américain a 4 niveaux de menaces à la sécurité dans ses avis de voyage. Le numéro 1 dit « prenez des précautions normales ». Le deuxième numéro dit « faites preuve de prudence accrue ». Le troisième niveau nous dit de reconsidérer votre voyage. Et le plus grave, le quatrième, déclare clairement « n'y voyagez pas ». Le Burundi se trouve au niveau 3 pour tout le pays, mais la province de Cibitoke, où vivent presque tous nos membres et ont lieu nos assemblées de sabbat, est au niveau 4. C'est une région où 3 pays se rencontrent, le Burundi, le Rwanda et le Congo, et elle a été en proie à la guerre dans les 3 pays au cours des dernières décennies. Tous ceux qui vivent là-bas et qui sont âgés de plus de 30 ans ont été réfugiés au moins une fois dans leur vie. Voici ce que dit le département d'État américain à propos de Burundi. Résumé du pays. La possibilité de violence politique existe dans tout le pays. Les postes de contrôle de police et de l'armée sont courants et peuvent limiter les déplacements. La police peut fouiller les domiciles privés à la recherche d'armes et les frontières peuvent fermer sans préavis. Des crimes violents comme des agressions, des détournements de voitures, des invasions de domiciles, des attaques à la grenade et des vols à main armée sont possibles. Les criminels peuvent cibler les étrangers et les résidents soupçonnés de détenir de grosses sommes d'argent liquide. La police locale manque de ressources et de formation pour répondre efficacement aux crimes. Les services médicaux au Burundi sont bien en deçà des normes américaines et il n'existe pas de service de traumatologie adéquat dans tout le pays. Les services médicaux d'urgence et les services d'incendie sont limités ou inexistants dans certaines régions du pays. Même des problèmes de santé relativement mineurs peuvent nécessiter une évacuation médicale aux frais du voyageur. Une assurance d'évacuation médicale valable pour un voyage au Burundi est fortement recommandée. Le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services d'urgence aux citoyens américains dans tout le Burundi. Le personnel de l'ambassade des États-Unis est soumis à des restrictions lorsqu'il se déplace dans certaines régions du Burundi et peuvent être soumis à d'autres contraintes si les conditions de sécurité le justifient. Ces restrictions incluent des limitations sur tous les déplacements dehors de Bujumbura-Mairie pendant les heures d'obscurité, entre 18h et 6h du matin. Maintenant, l'avertissement pour les provinces de Cibitoke. Niveau 4. Ne pas y voyager. Les acteurs armés exploitent les frontières poreuses et les zones forestières entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo pour leurs déplacements et leurs activités. Le personnel de l'ambassade des États-Unis n'est pas autorisé à se déplacer dans les zones suivantes sans autorisation spéciale. Les provinces de Bubanza et de Cibitoke et le parc national de Kibira. En raison des restrictions de voyage imposées au personnel de l'ambassade des États-Unis, le gouvernement américain pourrait ne pas être en mesure de fournir des services d'urgence aux citoyens américains dans ces zones. Voilà le rapport des services de l'État américain. Nous avons des centaines de frères et sœurs qui vivent dans une région que le département d'État américain considère comme trop dangereuse pour s'y rendre en sécurité. Et malheureusement, ils n'ont pas vraiment le choix. Leurs parcelles agricoles sont là. Ils doivent y rester pour s'occuper de leurs fermes. Ce qui plus est, en termes de PIB par habitant, le Burundi est le pays le plus pauvre au monde, et de loin. J'ai accompagné Marjolaine à l'aéroport à Ndola au milieu de la matinée pour qu'elle puisse commencer son voyage de retour. Ensuite, j'ai attendu à l'hôtel jusqu'en milieu d'après-midi, heure à laquelle je suis retourné à l'aéroport où j'ai pris un vol de 40 minutes jusqu'à Lusaka, la capitale du pays. Et de là, j'ai pris ma correspondance, mais j'ai dû attendre 7 heures jusqu'à 2h10 du matin pour prendre mon vol vers Addis Abeba, un vol qui a duré 4h30. J'ai dormi environ 2 heures jusqu'à notre arrivée à Addis à 7h30. Il y avait là une deuxième escale de 3 heures avant mon troisième vol vers Bujumbura, où je suis finalement arrivé vendredi à midi. Pendant le trajet en route vers l'hôtel, j'ai remarqué de longues files de voitures devant les stations-service. La pénurie d'essence que j'avais constatée la dernière fois n'avait pas été résolue depuis ma dernière visite. À l'hôtel, situé au bord du lac Tanganyika, j'étais choqué de voir que le niveau d'eau était monté d'environ 3,5 mètres en raison de fortes pluies. Les inondations sont un problème sérieux actuellement. Le jour du sabbat, à 7h30, le fils de notre pasteur local est arrivé à mon hôtel avec une Toyota 4x4, un chauffeur et un pasteur venant de la frontière congolaise. Ce pasteur et sa petite congrégation veulent faire partie de notre association. Ils célèbrent le sabbat. Il a passé la journée avec nous, nous observons et nous posons des questions. Sur le chemin vers le lieu de l'assemblée, nous avons dû nous arrêter pour acheter de l'essence au marché noir. Le prix était l'équivalent de 6 dollars le litre, mais c'était le seul moyen de pouvoir nous rendre et assister à l'assemblée sabbatique. À cause de fortes pluies, certaines sections de la route avaient été emportées par les eaux. J'étais reconnaissant que cette fois-ci, nous ayons pu voyager en véhicule 4x4. Environ 400 personnes étaient présentes à l'assemblée. J'ai parlé sur le thème de l'engagement chrétien et j'ai été traduit en Kirundi, phrase par phrase. Après l'assemblée, j'ai discuté avec ceux qui parlaient le français avant de rentrer à Bujumbura. J'étais heureux d'être de retour, sain et sauf, dans la sécurité relative de la capitale. Dimanche, j'ai rencontré notre pasteur Nathan Mokishimana et son fils Melchiad. Nous avons passé une grande partie de la journée à revoir notre manuel de consignes pour l'Église que j'avais spécialement élaboré pour guider nos dirigeants en Afrique francophone. Il couvre des sujets tels que la manière dont les assemblées sabbatiques doivent être organisées, la comptabilité financière de base, la façon dont les jours saints doivent être célébrés et ainsi de suite. J'ai lu tout le document en m'arrêtant pour expliquer divers points et pour répondre à leurs questions. Après avoir terminé ce projet, je les ai invités à déjeuner. Melchiad a commandé une pizza parce qu'il n'avait jamais goûté cela auparavant. Et en passant, il m'a dit qu'il avait beaucoup aimé. Lundi, nous sommes revus pour discuter du développement de leadership et de l'importance de former nos remplaçants. J'ai abordé plusieurs documents que notre administration a préparés pour identifier les candidats au programme international de leadership et pour expliquer le fonctionnement de ce programme. Développer le leadership est un défi en Afrique, m'a dit Nathan, car il n'y a pratiquement aucun bon exemple dans nos sociétés du type de leadership enseigné dans la Bible. Nous avons discuté du conflit entre l'orgueil et l'humilité et de la difficulté de remplacer l'un par l'autre. J'ai expliqué à Nathan que nous préférions avoir un homme qui soit moins habile à parler ou moins capable dans un autre domaine physique, mais qui soit humble et disposé à coopérer plutôt que l'inverse. Nous avons discuté plusieurs heures à ce sujet avant de se laisser afin que Nathan puisse retourner dans la province de Chibitoke auprès de sa famille, avant qu'il ne fasse nuit. J'ai demandé à Dieu de bénir leur travail et j'ai encouragé Nathan à communiquer avec moi à tout moment s'il avait des questions ou s'il avait besoin de conseils, et il m'a dit qu'il le ferait. Je devais continuer mon voyage le jeudi, mais Kenya Airways a annulé ce vol. J'ai donc dû avancer mon jour de départ et prendre l'avion vers Nairobi le mercredi pour y passer la journée. Le vol suivant était prévu à partir de Nairobi pour jeudi soir. Je n'avais pas passé une journée complète à Nairobi depuis plusieurs années. J'ai donc décidé de visiter certaines attractions que je n'avais pas vues depuis des années ou même que je n'ai jamais vues auparavant. J'ai passé quelques moments à l'orphelinat pour animaux qui fait partie du parc national de Nairobi. Lorsque les animaux orphelins sont trouvés dans la nature, ils sont amenés ici pour être soignés avant d'être finalement réintroduits dans la nature. Un court trajet en ma voiture m'a conduit ensuite au centre des girafes, où des girafes Rothschild, qui sont rares, sont protégées et font partie d'un programme d'élevage visant à augmenter leur nombre. C'est un plaisir pour les personnes de tous âges de nourrir les girafes à leurs mains, depuis la plateforme d'observation. Enfin, j'ai passé quelques heures dans un lieu d'attraction appelé Boma de Kenya, qui présente les différents types de maisons traditionnelles construites par les tribus du Kenya, ainsi que divers types de musique et danse tribale. De retour à l'aéroport, j'ai dû attendre un peu après 22 heures pour prendre un vol vers l'île Maurice, dans l'océan Indien, où je suis arrivé à 3h30 du matin. Les vols du milieu de la nuit ont été multiples lors de ce long voyage. À l'île Maurice, j'ai dû encore attendre 6 heures à l'aéroport avant de m'envoler vers l'île de la Réunion. J'ai passé le sabbat avec M. et Mme Prodigue. Nous avons fraternisé et échangé pendant de nombreuses heures ensemble. Dimanche matin, un nouveau couple m'a rendu visite à l'hôtel où je logeais. Nous avons une visite ensemble. Puis j'étais invité à déjeuner chez les Prodigue. Nous avons mangé dans une cabane que M. Prodigue a construite dans un arbre devant leur maison pour ses petits-enfants. La vue était splendide et le mouvement de l'air très apprécié dans la chaleur tropicale de l'île. Lundi après-midi, j'ai pris l'avion vers l'île Maurice où j'ai passé la semaine à travailler dans ma chambre d'hôtel. Le sabbat, j'ai tenu l'assemblée avec Mme Saloni Prodigue et Mme Suzanne Laroche, nos deux membres veuves de l'île. Nous avons chanté des cantiques, j'ai brièvement prié avant de présenter une étude biblique. Et après l'étude biblique, nous avons discuté en partageant un thé parfumé à la vanille, spécialité de l'île, et des biscuits de noix de coco. Nous avons parlé de la fête des tabernacles de 2024 et n'étaient que toutes les deux. Alors, elles ont loué un appartement au bord de la mer et ont écouté des sermons en français chaque jour de la fête. Je rends visite à ces dames normalement deux fois dans l'année et nous apprécions le temps que nous pouvons passer ensemble. Le lendemain, j'ai pris l'avion de l'île Maurice à Nairobi, où j'avais une escale avant de poursuivre mon voyage vers Kigali au Rwanda. J'y suis arrivé vers 4 heures du matin, j'ai dormi quelques heures et je me suis rendu tout de suite au bureau d'immigration. Mon permis de séjour rwandais était sur le point d'expirer et je dois le maintenir à jour pour que l'Église puisse être reconnue par l'État. Un processus frustrant sur lequel nous travaillons encore. Mon permis a été renouvelé à temps, mais ils ne m'ont accordé qu'une prolongation de 2 mois. Donc, à moins que le processus ne réussisse dans les 2 prochains mois, je devrais retourner au Rwanda pour continuer ces étapes apparemment sans fin. Nous sommes légalement interdits d'organiser des assemblées sabbatiques, mais j'ai pu malgré tout rencontrer des frères dans une maison privée pendant le jour du sabbat. Samedi, dans la nuit, j'ai commencé le long voyage de retour. 90 minutes de vol pour atteindre Nairobi, une escale de 2 heures, un vol de 9 heures vers Paris, 4 heures d'escale et un vol de 10 heures et demie jusqu'à Dallas, où j'étais très heureux d'arriver. J'espère que vous garderez ces frères à l'esprit et dans vos prières. Ils sont tous confrontés à des défis. Beaucoup sont confrontés à la solitude. Beaucoup vivent dans des endroits très dangereux. Beaucoup vivent dans une pauvreté extrême. Et certains sont confrontés à l'opposition du gouvernement, ce qui est très proche de la persécution, si ce n'est pas une persécution pure et simple. Ils sont reconnaissants de votre soutien fidèle et ils prient pour vous. J'espère que nous prierons également pour eux. Nous lisons dans Hébreux chapitre 6, verset 10, « Car Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Une façon pour nous tous de nous servir les uns les autres est de prier les uns pour les autres. Dieu dit qu'il n'oubliera pas ce service. Ben c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, M. Douglas Orshak présentera à propos. Il est en voyage actuellement. Je suis sûr qu'il aura des histoires intéressantes à partager. Pour l'instant, de la part de nous tous, au siège social, nous vous souhaitons à tous une journée de sabbat paisible et rafraîchissante.